Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif, donc c'est Amnesty International.
On a chanté la musique, hein. Ouh, c'était
non,
dur.
Non, c'est, on a laissé le générique, hein, voilà. Et puis, pour notre première émission, tu m'as troublé du coup. Pour notre première émission du mois d'avril, effectivement, puisqu'on est le 14 avril.
Et, 14 avril, donc, un jour célèbre.
Oui, pardon.
C'est son anniversaire.
Ne dévoile pas. Vous entendez
Edith. C'est déjà dit.
Vous entendez Edith qui est dans le studio avec moi et qui dit effectivement que c'est mon anniversaire aujourd'hui.
Ah voilà,
oui, c'est
quand
mon
même.
Anniversaire. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on est sur l'antenne de Principe Actif. C'est pour parler de la promotion et de la défense des droits humains. Et donc, on va commencer l'émission pour tous les auditeurs et auditrices qui se sont peut-être...
Et les spectateurs, les futurs spectateurs.
Les spectateurs, oui, qui sont peut-être venus au cinéma jeudi dernier, le 8, pour voir la projection débat qu'on avait annoncée du film
Tout va bien.
Tout va bien, c'est ça. Et donc, on était bien présents au cinéma, sauf que à peu près une bonne demi-heure avant le début de la projection, panne d'électricité générale dans le cinéma.
Dans le secteur, quartier.
Dans le secteur aussi. Donc, absolument impossible de maintenir la projection de débat sans électricité. Et d'ailleurs, les spectateurs qui étaient présents dans les autres salles pour voir les autres films ont été gentiment priés de sortir. Donc, les portes du cinéma ont été fermées à partir de 19h. Et donc, la séance a été purement et simplement annulée. Bon, la direction du cinéma s'est excusée auprès de nous. Malheureusement, ils y sont pour rien et nous non plus. Mais on va la reprogrammer, rester à l'écoute de la prochaine émission. On va la reprogrammer très vite avec le cinéma et on va trouver une nouvelle date.
Ça sera pour après les vacances.
Ce sera après les vacances de Pâques, de toute façon. Voilà. Les vacances scolaires de Pâques, donc après le 27 avril. Ouais,
voilà. Et pour les gens qui regardent les dates, c'était le 9, jeudi 9. Tu as dit 8.
Jeudi 9, pardon.
Voilà,
9,
parce qu'après, ça peut perturber des gens quand même.
Voilà. Et donc, oui, c'était jeudi 9. Et donc, voilà, ça fait partie des impondérables.
C'est la première fois, là, oui. Franchement, une panne de courant au cinéma. Moi, j'avais jamais vécu ça. C'est une première. C'est dommage que ça soit le soir où on allait avoir notre débat avec les gens de RESF et vous montrer un film documentaire sûrement passionnant.
Et quand on a dû quitter les lieux, la direction du cinéma nous a dit qu'ils allaient, parce que l'électricité était revenue, et qu'ils devaient relancer toutes les machines et qu'ils allaient peut-être faire des séances à 22h, mais ce n'était pas sûr. Voilà. En tout cas, la nôtre était définitivement à l'eau. Donc voilà, et c'est une façon de commencer l'émission un peu particulière, mais bon, on tenait à vous le dire.
Non mais on va vous donner vite la date, vous allez voir, vous allez la voir sur les programmes du cinéma après les vacances, et sans doute un jeudi, on va dire, sans doute un jeudi.
Tout à fait. Et moi je voulais commencer l'émission, alors je vais vous parler d'un article qui est dans la chronique. On vous rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty International, donc vous pouvez trouver le formulaire d'abonnement sur le site amnesty.fr, n'hésitez pas à vous abonner, c'est une excellente revue qui parle de droits humains, bien évidemment, et qui fourmille d'informations que vous n'entendez pas sur les grandes chaînes de radio ou de télévision. Et donc le Soudan, le théâtre de guerre civile depuis des années et des années et des années, avec son lot d'horreurs, d'exécutions, de viols, de massacres, enfin, etc. Le refrain habituel, hélas. Comme dit Amnesty, effectivement, je vais vous lire la présentation de l'article. La guerre au Soudan est une guerre sans fin. Elle renaît sans cesse de ses cendres depuis plus de 20 ans. Une spirale de violence qualifiée par l'ONU de pire crise humanitaire et de déplacement au monde. Et voilà, et si c'est la pire crise humanitaire, ce qui pose question, c'est qu'on n'entend pas beaucoup parler, c'est le moins qu'on puisse dire, dans ces médias. Peut-être que c'est comme ça se passe en Afrique, ça ne les intéresse pas beaucoup. Alors juste un petit rappel de la chronologie. 1955 à 1972, première guerre civile opposant le gouvernement central à la rébellion du Sud, aspirant à une autonomie. Un accord de paix a été signé en 1972. 1983-2005, deuxième guerre civile au Sud, qui s'étend du Kordofan du Sud au Nil Bleu. Accord de paix global en 2005. 1989, coup d'État d'Omar el-Béchir qui suspend la Constitution et impose la charia, aggravant les tensions Nord-Sud. 2003, début de la guerre au Darfour. Ça, on a entendu parler, par contre, dans les médias de la guerre au Darfour à l'époque. 2009, la Cour pénale internationale émet un premier mandat d'arrêt contre Omar el-Béchir. Alors, il n'est pas précisé dans la chronologie, mais Omar el-Béchir a effectivement été arrêté et est maintenant en prison à la Cour pénale internationale en attendant, si je ne m'abuse, de son jugement. 2011, indépendance du Soudan du Sud. Donc, le pays est divisé en deux.
Et là, on a pu espérer un calme.
Oui, on a pu espérer un calme.
C'était le seul moment où on s'est dit peut-être que ça va s'arrêter.
Donc, en 2019, chute du président el-Béchir après les manifestations massives. Transition menée par un gouvernement civilo-militaire qui avait promis aussi un retour de la démocratie qu'il n'a jamais appliqué. 2023, début de la guerre entre les forces d'armée soudanaises dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan et les FSR du général Mohamed Hamdan Dago. Voilà. Et depuis, effectivement, cette guerre entre le président et son ancien premier ministre, la guerre civile ne s'est jamais arrêtée depuis et a fait effectivement des milliers de morts. Alors vous trouverez dans la chronique effectivement plein d'illustrations avec des textes et des photos sur les principaux épisodes de ces événements absolument dramatiques. Bon, je ne vais pas vous les lire parce que ce ne serait pas du tout radiophonique. Mais par contre, en conclusion de cet article, il y a une interview très courte d'un chercheur d'Amnesty qui travaille sur ce pays. Et voilà ce qu'il dit. Question, parce que c'est une interview. Quels sont les principaux acteurs impliqués dans le conflit soudanais ? Les sept États limitrophes du Soudan participent directement ou indirectement à des transferts d'armes. Ces livraisons bénéficient soit aux forces armées soudanaises, FAS, qui contrôlent l'est du pays, soit aux forces de soutien rapide, FSR, dominantes au Darfour et dans le sud-ouest. Des puissances plus éloignées alimentent également le conflit, à l'instar de l'Iran et de la Turquie qui soutient les FAS. La plupart des drones utilisés par l'armée soudanaise pour bombarder les civils sont d'origine turque, par exemple. De leur côté, les Émirats arabes unis apparaissent comme l'un des principaux appuis des FSR. Autre question, qu'est-ce qui motive ces ingérences étrangères ? Les ressources naturelles du Soudan, en particulier son or et son pétrole, suscite des convoitises. Pardon. Je réglais un petit peu le micro. Le contrôle des routes d'exportation constitue donc un levier décisif. Si la majorité des champs pétroliers se trouvent au Soudan du Sud, indépendant depuis 2011, les hydrocarbures doivent transiter vers le nord, tenus par les forces d'armée soudanaises, pour être exportées. Quant aux régions du Darfour et du Kordofan, elles abritent un important couloir aurifère, donc des mines d'or, au cœur de multiples trafics transitant par la Libye et le Tchad. Tout indique que cet or est principalement exporté vers les Émirats arabes unis, soupçonnés de soutenir les FSR pour en sécuriser l'accès. Par ailleurs, outre ses intérêts économiques, plusieurs pays impliqués dans le conflit, Iran, Turquie, Émirats arabes unis, cherchent depuis plusieurs décennies à élargir leur influence en Afrique, notamment dans la Corne et le Soudan, situés entre la Libye méditerranéenne, la mer Rouge et l'Afrique subsaharienne, constituent un verrou stratégique. Autre question. Pourquoi les Émirats arabes unis sont-ils particulièrement ciblés par Amnesty International ? Leur responsabilité est majeure, tant par l'ampleur de leur soutien au FSR que par les pertes civiles faramineuses causées par celles-ci, surtout au cours des 10 derniers mois. Les Émirats leur fournissent armes, munitions et véhicules blindés, en violation de l'embargo onusien sur les armes en vigueur depuis 2004. Ils réexportent notamment du matériel militaire chinois, drones, obusiers, blindés, à partir de l'aéroport d'Amjaras, dans l'est du Tchad. Nous avons aussi documenté la présence du côté des FSR de blindés Emirat Nimr, que je ne connais pas, ce sont des armes, équipées du système de protection français Galix, bouclier antimissile. Au-delà de ces transferts, il est établi que les mercenaires colombiens combattant aux côtés des FSR ont tous été recrutés par des entreprises émiraties. Les preuves d'ingérence émiratie dans le conflit soudanais forment un faisceau désormais irréfutable et considéré comme crédible par le panel des experts du Conseil des Nations Unies de l'ONU. Ceci étant, les Émirats sont très agressifs sur le plan diplomatique. Ils ont fait pression pour limiter les publications de preuves. On peut aussi s'étonner que le dernier rapport de ce panel d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU, publié en 2025 après la démission d'une experte, soit aussi court et dénué de détails ou d'annexes. Dernière question, comment sortir de cette impasse ? Sans pression diplomatique sur les États soutenant les belligérants, en particulier les Émirats arabes unis et la Turquie, aucune perspective de paix durable n'est envisageable. Il faut imposer des restrictions effectives dans les transferts d'armes, appeler les États à cesser toute coopération de défense avec les pays qui arment les parties au conflit et donner à l'ONU, notamment les panels d'experts et la mission d'établissement des faits sur le Soudan, les moyens financiers, techniques et diplomatiques de mener et de publier ces enquêtes en toute indépendance. Voilà, où on apprend donc effectivement que cette guerre au Soudan qui n'en finit pas et les massacres de civils sont largement financés et armés par les Émirats arabes unis, la Turquie et même la France qui a livré effectivement du matériel militaire.
Russie aussi, voilà. Enfin voilà, Égypte, enfin
et
on a
tout
la totale.
Tout ça ne vous étonnera pas pour du pétrole et de l'or.
Des matières voilà. premières. Il y a deux rapports Amnesty hein, pour les toujours. Gens qui veulent savoir plus. Là, un qui est sorti en novembre dernier. Quoi, donc, parce que malheureusement, c'est une histoire qui dure.
Oui, qui dure. Et encore une fois, ce sont les civils qui trinquent. Et on va changer de pays complètement. On va vous parler de l'Iran, mais pas sous l'aspect de l'agression des États-Unis contre le pays, contre l'Iran, mais sous l'aspect, mais c'est Edith qui va vous le dire.
Voilà, moi je vais vous parler d'une BD qui vient juste de sortir. Elle est sortie le 9 avril. C'est une dessinatrice franco-iranienne, Bahareh Akrami, je ne sais pas si on fait la liaison. Et son dernier album, donc disponible le 9 avril, raconte le combat de Tomaj Saheli, un rappeur iranien traqué par le régime et figure de résistance en Iran. Alors, la chronique et Amnesty l'a rencontré. Donc, cette dessinatrice chronique en 2022 sous le pseudo de Babou. Elle chroniquait le procès des attentats parisiens du 13 novembre, dont elle est une rescapée. Le quotidien Libération lui consacre alors un portrait intitulé « Dessiner les vivants ». La formule doit lui sembler amère, tant la mort n'en finit pas de planer sur ses dessins. Alors, on va avoir aussi, c'est un peu comme Didier, il va y avoir une interview de cette personne et elle va raconter la naissance de ce récit alors que le peuple iranien survit sous les bombes. Comment avez-vous vécu la répression de janvier et les débuts de la guerre en Iran depuis la France ? La répression de janvier nous a mis un coup de massue. Nous y sommes familiers, mais personne ne s'attendait à une répression aussi violente. Les chiffres officiels parlent de 10 000 morts. Certaines organisations de 30 000. Le pays entier était en deuil avec un blackout total. Aucune information ne nous parvenait. C'était extrêmement angoissant. La guerre qui a débuté ce 28 février a ajouté du chaos au chaos. Le régime en sort renforcé, l'opposition largement affaiblie. Dans les prisons où se trouvent énormément d'opposants, les conditions sont désastreuses et catastrophiques. Et ces derniers jours, le régime a encore renforcé la répression. 3 manifestants ont été exécutés. Tout cela présage des temps toujours plus difficiles. Il y a énormément de coupures d'électricité, les prix augmentent, beaucoup n'ont plus accès aux soins de santé pourtant vitaux. Et en parallèle, La pollution due aux attaques contre les raffineries et les sites pétroliers fait craindre le pire pour la santé de la population. Les écoles, les facultés sont fermées et les enfants vivent avec le bruit des bombes au-dessus de leur tête. Sur place, malgré le blackout, certains utilisent les VPN pour recevoir des messages. C'est une technologie coûteuse et qui n'est pas maîtrisée par tout le monde, surtout les plus âgés. Cette fois, le blackout n'est pas total. On parvient à avoir quelques nouvelles de nos proches de manière sporadique, mais cela reste compliqué, car nous ne pouvons pas les contacter depuis l'étranger. Pour ma part, je n'ai de leurs nouvelles qu'indirectement. Une cousine en Allemagne s'occupe de faire le lien. Sur place, ils ont peur et ils sont très angoissés. Ils ne savent pas de quoi sera fait demain. Une grande partie de ma famille vit à Ispahan et le 25 mars dernier, un marché a été frappé par un drone. Alors cette BD sur l'histoire du rappeur iranien Tomaj Sali, pourquoi avoir choisi de raconter son histoire ? Tomaj incarne la résistance face au régime iranien. Il a été plusieurs fois arrêté, emprisonné et torturé pour sa mobilisation en faveur du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Il a aussi été condamné à mort par les autorités avant que sa peine ne soit finalement annulée grâce à la mobilisation internationale et l'action d'ONG. Après la répression de janvier, il a été l'une des rares voix de l'opposition à continuer d'alerter sur le sort des prisonniers politiques. Il n'a jamais cessé de se mobiliser. Par ailleurs, Tomaj a travaillé très tôt en tant qu'ouvrier dans l'atelier de son père. Il n'appartient pas à cette jeunesse dorée issue des beaux quartiers de Téhéran. Il fait partie des classes moyennes et ouvrières d'Iran. Aujourd'hui, cette figure parle donc beaucoup à une partie de la jeunesse iranienne, celle qui est courageuse, connectée au monde et révoltée. Pour ma part, nous avons également un parcours de vie en commun. Nous venons de la même ville, Ispahan. Et là, le régionalisme s'est ancré dans la culture iranienne. Cela crée un lien fort avec lui. Par ailleurs, ses parents étaient des opposants. Ses deux oncles ont été tués par le régime. Cela fait aussi écho à ma propre histoire. Alors, comment avez-vous créé un lien avec Thomas au moment de créer la BD ? Je n'aurais jamais pensé pouvoir entrer directement en contact avec lui. Je ne voulais pas que ce projet mette sa sécurité en danger. Quand l'idée de cette BD m'est venue, je l'ai contacté. Et à ma grande surprise, il m'a répondu. De là est né un dialogue avec lui. Ses réponses étaient très succinctes, mais c'était déjà ça. Dans un premier temps, je l'ai questionné sur son enfance, puis j'ai posé des questions plus politiques. C'est à ce moment qu'il a arrêté de me répondre. J'ai donc prolongé la BD seule, et j'ai alors pensé à l'idée d'un dialogue fictif entre lui et moi. Je lui ai renvoyé un message pour la nouvelle année. Il m'a répondu par un vocal. J'ai reconnu sa voix. Je lui ai envoyé la BD finalisée peu après les massacres de janvier, quand le blackout a été levé. Il l'a beaucoup aimée et m'a promis de la partager lorsque cela serait opportun. Début février, j'ai découvert via un post Instagram qu'il avait été touché par plusieurs balles durant les mobilisations de janvier. Depuis, le nouveau blackout du 28 février, je n'ai plus de nouvelles de lui. Alors, cette BD, c'est aussi un moyen de résister et de lutter à côté des Iraniens. Ouais, Tomaj, il pourrait quitter l'Iran, mais il a fait le choix de rester. Alors je m'interroge. Moi, j'ai quitté le pays avec mes parents. Je suis arrivée à l'âge de 3 ans, j'ai grandi, j'ai construit ma vie ici. Mes parents ont fait le choix de quitter l'Iran pour nous protéger. Alors aujourd'hui, je ressens une forte responsabilité vis-à-vis d'eux. Si nous n'avions pas été là, ils se seraient battus jusqu'à la mort en Iran pour défendre leurs idées. Je me dois de poursuivre leur combat. Pour moi, cette BD est une façon de relayer la voix de mes compatriotes et de poursuivre la lutte engagée par mes parents il y a près de 50 ans. Alors, plus personne parle de femmes, vie, liberté. Pourtant, ce mouvement a profondément changé la société iranienne. Ce mouvement est émancipateur, nous a rendus fiers. Il a été un modèle pour le reste du monde parce qu'il s'agissait d'une révolution féministe portée par des femmes, mais aussi soutenue par les hommes. Les hommes ont compris que leur liberté passait par celle des femmes. De fait, beaucoup ont été exécutés pour avoir soutenu ce mouvement. Tomaj l'incarne très bien. Il montre aussi qu'une autre voie est possible. Il porte un message d'espoir, d'union et de courage. Alors que les Iraniens viennent de subir une répression d'une extrême violence et sont aujourd'hui confrontés à la guerre, ce message est d'autant plus fort. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la communauté internationale aujourd'hui ? Sans accès à Internet, la population est privée d'informations essentielles pour se protéger. On ne sait pas où les bombes vont tomber, quelles zones sont ciblées, et il est impossible de communiquer. Il y a donc urgence à faire pression contre le régime iranien pour permettre le rétablissement d'Internet. Par ailleurs, ce n'est pas en détruisant un pays, en tuant les populations civiles, en rajoutant du chaos au chaos, que l'on se débarrassera de ce régime. Il faut mettre en place un cessez-feu rapidement pour que les bombes cessent. Enfin, la plupart des autorités, des opposants politiques sont aujourd'hui dans les prisons d'Iran. C'est le cas de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023. Et il est crucial de mettre une pression internationale pour permettre leur libération. Alors, Narges Mohammadi, on vous en a parlé, elle a été libérée, elle a été réemprisonnée en fin de cette année. Et là, moi, j'ai vu une info comme quoi elle a été retrouvée dans sa cellule, victime d'un AVC, donc on ne sait absolument pas son état de santé. Je vais juste finir, donc cette BD, comment vous dire, il faut absolument aller l'acheter. Et de ce que publié Thomas sur son compte Instagram, qui fait la dernière, parce qu'elle nous a laissé utiliser quelques planches de sa BD. Donc, c'est pareil, hein, à la radio, je ne peux pas vous montrer la planche, mais je peux juste vous dire ce message. Alors, le 4 février 2026, tu publiais cette photo de toi sur ton compte Instagram accompagné de ce message. Alors, la photo, on voit son dos et on voit des blessures dans son dos. Si j'avais pu choisir, j'aurais voulu recevoir toutes les balles de la guerre pour que mon peuple, lui, reste indemne. Il m'a fallu près d'un mois pour me libérer de cette question qui me rongeait la conscience. Pourquoi est-ce que j'ai été épargnée ? Nous connaissons tous ce vertige, mais cette brûlure de la conscience, il faut la garder vivante. Il arrive un moment où la vie se mesure à ce que l'on vend de son honneur. Certains ont été saignés, des amoureux de la liberté à qui l'on a volé la vie, mais jamais la dignité. Nous aussi, nous sommes encore vivants et nous restons debout pour la liberté et pour la justice. Et alors, comment ne pas finir cet article par une chanson du rappeur ?
Oui, on va vous passer effectivement comme pause musicale. Tu nous dis par contre l'éditeur pour ceux qui
veulent l'acheter ? Alors oui, c'est La Vie.
Je l'ai là si tu l'as pas.
C'est Une Voix pour la Liberté, Tomaj Saheli, un rappeur iranien en résistance, et c'est aux éditions Delcourt.
Et c'est coédité par Amnesty International.
Voilà, donc c'est vraiment... Et quand moi, les planches qu'on a pu avoir, ça donne vraiment envie d'aller voir. Et c'est aussi soutenir l'Iran.
Tout à fait. Et donc, puisqu'on vous parlait effectivement de cet artiste, on va vous passer, ce rappeur iranien, on va vous passer, grand héros de la résistance, on va vous passer un morceau tout de suite.
پیغمبر عشقم هنو عداق این کشور شبا پلکه مره رو پلکم من هنوز سرپام هنوز یاقی و بیپروام هنوز نرایت نرباب هنوز حق و تلخ نرفام منو نمی کنه خاموش کن تا بلجن نمیتونه بزنه کس افسار برفم فروشی نیست فریاد مظلوم قیمت نداره پناز قلم منو نمیتونی خفه کنی گفته بودم مگه رحمی بوده که دیگه مرده تو گفته این دو سال صدام و کشتی تو عفظ شدم گرافیتی شعار و پرس تو شهر من هنوز زندم هنوز بازی کنه رندم خواستید کورم کنید اما هنوز تیزن دوتا چشمم میبینم با ولع میزنید قل تو خون سالم در نمیاد اتوتون ببینیم و جارش میزنیم و نقاب بر میداره من رو تون هنو خودمم هنو خود مردمم هنو اتس میترسم اتونم پین کارگریام کف دست پارن هنوزم عاشق گل گندمم هنو برهن پا منو خاک بازم هنوزم شاعر کف آسفالتم منو سفت کمر ولی جاپان نر منو تق به توق بخوره باز داشتم من ولی جریان داره زندگی هنوز زنده است تو مونتاد داریم جاریم میشیم سرو هنوز جوشانن چشمه ها کوتاه شده فیتیلش داره تونتر میشه ارتاش بشنو دختر میشه ای صدا یعنی نزدیک شده انفجار ولی جریان داره زندگی هنوز زنده است تو مونتاد داریم جاریم میشیم سرو
نشانن چشمه ها کوتاه شده فیتیلش داره تونتر میشه ارتاش بشنو دختر میشه ای صدا یعنی نزدیک شده انفجار جوش خوردن همه استخونام جوهر قلم داره میشه روون قل میخورن کلمات تو سینم ما تشفشان زیر گلوم قلم تیزه هنو قلم تیغه هنو قلم اصله هست که بستم تیغه هرو جوری گر میده پرده ها میرن هرو پشت برگه هاتونم دیدم با دیده درون پیله تو مغز میاد مغزق پیله اینقدر جوونه دادیم داره سرسبز میشه سر سوخ حالید میکنه که مقصد چیه بدتر بشی بد برات بدتر میشه آره عقب سینم چاکتر آرومترم چون دیدم باستر قول دادم به خودم که میرم تا تش فنا من خودم هم جیگردارترم گر میدیم آسفالتو این خیابون آمال من روحی کماندو ای بزرگ شده یه پادگان جره های شر با عمل تیمی شک میدیم بهش و نفس گیری شارگ خیابونو تو دستمونه و مغزش جلومونه وسط سینی گرمی کنیم برای راند بعدی وایسی جلومون که باخت قطیه عقب نشین اینجا نداره معنی جرم حرف پینم خلاف بعدی گر میدیم آسفالتو این خیابون آمال من روحی کماندو ای بزرگ شده یه پادگان گر میدیم آسفالتو این خیابون آمال من این خیابون آمال من ما هنوز زنده ایم ما هنوز زنده ایم هنوز ما هنوز زنده ایم ما هنوز زنده ایم
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la suite de son émission. On vient donc d'entendre effectivement Tomaj, ce rappeur iranien, grand résistant pour les droits et contre l'oppression dans son pays, effectivement. Voilà, donc vous pouvez l'écouter sur YouTube, hein, vous avez le morceau avec une vidéo qui est sous-titrée, ce qui vous permet effectivement de comprendre, parce que pour ne rien vous cacher, on ne parle pas bien le persan.
Le farsi.
Voilà. Le farsi, je ne sais pas quelle est sa langue, ça doit être le persan, je pense. Bref, donc on va continuer nos informations sur la situation du monde vis-à-vis des droits humains. Et comme on parle de la situation du monde, on va vous parler, mais c'est Edith qui va le faire, d'Israël.
Oui, parce que à la dernière, notre dernière radio, on l'avait un tout petit peu évoqué en fin d'heure. Et donc on avait dit qu'on allait en reparler. Et effectivement, c'est cette fameuse proposition de loi, même cette loi qui a été votée le lundi 30 avril par la Knesset, une loi qui élargit et accélère le recours à la peine de mort, adoptée à 62 voix contre 48. Bon, on peut se dire voilà, qu'il y a quand même aussi un peu d'opposition en Israël, puisqu'on arrive actuellement, on ne voit que ce que les ministres et le gouvernement d'extrême droite nous donnent à montrer, mais il y a quand même 48 voix qui étaient contre.
Juste, je t'interromps une seconde, excuse-moi, mais la Knesset, pour ceux qui ne sont pas au courant,
c'est le Parlement israélien. Voilà, oui, c'est ça. Donc, une modification de la législation pénale israélienne nommée « Loi sur la peine de mort pour les terroristes ». Et avec cette loi, Israël donne carte blanche pour exécuter les Palestiniens ou Palestiniennes sans garantie de procès équitable. Un tournant alarmant. Alors, des explications. Une loi à contre-courant. Alors, en Israël, traditionnellement, la législation israélienne restreignait le recours à la peine de mort aux crimes d'une exceptionnelle gravité comme le génocide et les crimes contre l'humanité. La dernière exécution judiciaire dans le pays remontait à 1962. Alors, cette loi est à contre-courant de la marche du monde et de l'objectif d'abolition proclamé dans un traité international essentiel que le pays a lui-même ratifié en 1991. Cette loi viole le droit à la vie, démantèle les garanties fondamentales à un procès équitable, renforce l'apartheid israélien maintenu par des dizaines de lois discriminatoires à l'encontre des Palestiniens et Palestiniennes. Donc, c'est l'une des plus extrêmes au monde sur la peine de mort, car avec cette loi, les personnes condamnées à mort n'ont d'ailleurs pas le droit de grâce. Cela en fait l'une des lois les plus brutales. Ça cible palestiniens-palestiniennes. Avec cette loi, en Israël et à Jérusalem-Est, annexée illégalement, les tribunaux civils sont autorisés à prononcer la peine de mort contre toute personne reconnue coupable d'avoir tué intentionnellement dans le but de nier l'existence de l'État d'Israël. Alors, preuve que cette loi cible délibérément les Palestiniens. Alors, les exécutions en 90 jours sans garantie d'un procès équitable. En vertu de cette loi, en Cisjordanie occupée, les tribunaux militaires peuvent désormais condamner à mort des Palestiniens accusés d'homicide volontaire commis dans le cadre d'actions définies comme terroristes par Israël. L'exécution aura lieu dans les 90 jours seulement après le verdict définitif. Alors pour rappel, les tribunaux militaires affichent un taux de condamnation de plus de 99% pour les accusés palestiniens. Et ils sont connus pour bafouer les garanties d'une procédure régulière et d'un procès équitable. Alors, son application contre les Palestiniens du territoire occupé pourrait équivaloir à un crime de guerre. Toute peine de mort prononcée en vertu de cette loi constituerait une violation à la vie et ce que je viens de dire, donc, équivaloir à un crime de guerre. Et on peut noter que cette loi est adoptée le mois, donc on est en mois de mars, où toutes les charges contre des soldats israéliens accusés d'avoir agressé sexuellement un détenu palestinien ont été abandonnées. Cela en dit long sur l'ampleur de la déshumanisation des Palestiniens par Israël. Alors ce qu'on demande aussi, donc Amnesty demande que la communauté internationale fasse pression le plus possible sur les autorités israéliennes pour qu'elles abrogent immédiatement cette loi, abolissent totalement la peine de mort et démantèlent toutes les lois et pratiques qui contribuent au système d'apartheid contre la population palestinienne. Mais ce qu'on demande aussi en plus, c'est par rapport à l'Europe, par rapport à l'Union européenne. Elle a toujours soutenu que la peine capitale était cruelle, inhumaine, incompatible avec la dignité humaine en toutes circonstances. Mais au-delà de cette position de principe, la nouvelle loi israélienne enfreint des garanties fondamentales reconnues par la communauté internationale qui vise à protéger les droits des personnes encourant la peine de mort. Son caractère discriminatoire et l'absence de garantie de procédure violent le droit à la vie et aux protections consacrées par le droit international humanitaire. Bon, je vous épargne les textes, mais ce sont des textes officiels et qu'Israël a aussi reconnus. Donc, il y a eu des démarches diplomatiques entreprises par l'UE et les États membres pour exhorter Israël à faire marche arrière, mais jusqu'à présent, c'est infructueux. Et donc, cette décision consternante intervient dans un fonds de catastrophe humanitaire. Bon, Amnesty a dénoncé le génocide à Gaza. On voudrait bien quand même que l'Europe se positionne, parce que là, Israël, je vais juste vous dire rapidement tout ce que les lignes rouges franchies par Israël, et ces lignes, elles sont fixées par l'UE. Alors, effectivement, Israël n'est pas en Europe, on est bien d'accord, mais il y a des accords économiques entre l'Europe et Israël. Donc, ligne rouge franchie. Poursuite de la construction de colonies dans une zone qui était logiquement réservée aux Palestiniens. Le but, c'est d'empêcher la création d'un futur État palestinien. Interdiction de l'UNRWA, donc
l'Organisation des Nations Unies, voilà. pour l'aide, enfin pour l'aide aux Palestiniens.
Aux Palestiniens, voilà. Merci Didier de m'aider sur les acronymes. Voilà. Et attaque contre ces installations, notamment des écoles, des centres médicaux construits et gérés avec les contributions de l'Union européenne. Expulsion d'ONG internationales avec des procédures d'enregistrement restrictives. Hein, tout ce qu'on vous a dit déjà de ces dernières années, derniers Médecins du Monde, enfin tous ceux qui ont été obligés de partir. Expulsion forcée des résidents palestiniens à Jérusalem-Est. Déplacement forcé de milliers de Palestiniens. Démolition massive des logements et d'infrastructures palestiniennes en Cisjordanie, y compris des projets déjà financés par l'Union européenne. Impunité persistante pour les exécutions commises par les forces de sécurité israéliennes et des violences commises par les colons, avec l'assentiment de l'État, information faisant état d'actes de torture, de mauvais traitements infligés de façon généralisée et systématique à des détenus palestiniens et palestiniennes, restriction des libertés religieuses, attaque contre les journalistes, refus d'accès aux représentants de l'UE. Alors effectivement, quand on voit tout ça, on aimerait bien qu'il y ait quand même un arrêt, que l'UE respecte les principes qu'elle a elle-même énoncés, les obligations juridiques, en suspendant, à titre de mesure immédiate minimale, le volet commercial de l'accord d'association Europe-Israël et en adoptant d'autres mesures comme l'a proposé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en septembre 2025. On attend et on attend toujours.
Eh oui. Et ça me fait penser, quand on parle d'accord économique, c'est pas une source amnistienne, mais c'était dans Le Monde diplomatique, il y a 2 mois, un article qui expliquait comment, en viticulture, donc pour produire du vin, des colons s'installaient effectivement dans les territoires palestiniens, en Cisjordanie, expulsaient, expropriaient les propriétaires terriens qui étaient là depuis des générations et des générations, et qu'après, ce vin, donc, qui était produit complètement illégalement au regard du droit international, transitait par Israël, prenait une belle étiquette produit en Israël et était vendu par des grossistes en Europe.
Absolument. Voilà. Et voilà. Et il y a eu tous ces oliviers et les champs oliviers qui ont été, été coupés, massacrés. Et là, maintenant, c'est carrément viré.
Dans l'article, il y avait un ancien producteur d'olives qui expliquait qu'il était là depuis son arrière-grand-père, cette production, et que tout avait été arraché pour produire du vin avec le label vin israélien.
Donc, vraiment, un pays qui, voilà, qui sort de tous les textes qu'il a lui-même acceptés.
Voilà, donc tu voulais me laisser la parole pour un projet de
oui,
loi,
voilà,
c'est ça, pour compléter
quelque chose.
Ce qu'on vient de dire, effectivement, mais là qui nous concerne, nous, en France, mais qui va dans le même sens que cette intervention. Donc, c'est un petit communiqué d'Amnesty qui précise, ce jeudi 16 avril, donc c'est après-demain, la députée Caroline Yadan présentera à l'Assemblée nationale un projet de loi visant, selon son objectif déclaré, à lutter contre l'antisémitisme. A priori, lutter contre l'antisémitisme, nous, ça nous va très bien. Mais derrière l'intention affichée, cette proposition de loi ouvre la voie à de dangereuses dérives. Une loi liberticide, elle risque de restreindre l'expression d'opinions politiques sur les violations commises par Israël en Palestine. On vient de vous en parler. Une loi répressive, c'est un outil politique qui pourra être utilisé pour criminaliser les soutiens envers le peuple palestinien. On vient aussi de vous en parler. Une loi inefficace, alors que l'antisémitisme augmente et qu'il est urgent de protéger les personnes et les communautés juives contre les violences et les discriminations, cette proposition de loi instaurera un contrôle des opinions. Et donc Amnesty précise non au projet de loi Yadan. Et moi, je voudrais juste ajouter un petit commentaire, parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques, et c'était le cas de notre, il n'y a pas si longtemps, de la part de notre président de la République actuelle, Emmanuel Macron, qui, à l'instar de beaucoup d'autres, disait que l'antisionisme était assimilable à de l'antisémitisme. Ça, c'est vraiment une grosse escroquerie intellectuelle. On peut être tout à fait antisioniste, c'est-à-dire, en fait, au niveau de l'histoire, s'opposer au fait que les populations juives migrent vers l'État d'Israël pour s'y installer comme étant leur supposé, d'après eux, territoire d'origine. Mais ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est s'opposer aux juifs, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, parce qu'ils sont juifs. On peut s'opposer à un mouvement historique si on le considère comme injuste, sans être absolument du tout antisémite. Et moi, je vais même plus loin, je pense que vouloir assimiler antisionisme et antisémitisme, c'est antisémite.
Voilà, et c'est pour ça que ce projet de loi, on va voir ce que ça va donner, mais il y a eu aussi beaucoup de signatures, il y a plus de 500 000 personnes qui ont dit non, ça c'est quelque chose qui ne va pas dans la liberté d'expression et effectivement ce que tu viens de dire.
Tout à fait. Et encore une fois, juste pour conclure, s'opposer aux crimes que, et ils sont nombreux, que commet le gouvernement israélien Netanyahou et tous ces ministres d'extrême droite, effectivement, ça n'a rien à voir avec le fait de s'opposer à la population civile israélienne, bien évidemment.
Et aux juifs de partout
et
dans le monde.
Juifs. Voilà. Ce sont des crimes d'État. On s'oppose aux crimes d'État. En tant que militant des droits humains, on n'a absolument pas de penchant pour l'antisémitisme ou pour la condamnation d'un peuple ou d'une religion, quelle qu'elle soit, à travers le monde. Ça n'a rien à voir. Mais les crimes sont les crimes, qu'ils soient commis par des gouvernements israéliens ou pas.
Voilà, c'est la problématique des gouvernements qui représentent aussi une religion et que c'est un...
Ben, c'est ça le problème, aussi.
Alors, ensuite...
Oui,
je remets Didier devant l'horloge.
La pendule.
Parce qu'on n'est que tous les deux ce soir, vous en
voilà,
êtes rendu compte.
Oui, tout
donc
à fait.
C'est
pas
lui
grave.
Ou moi, quoi.
Donc, effectivement.
Ou la musique.
Généralement, c'est moi qui fais signe à nos amis interlocutrices qui montrent la pendule en disant que le temps passe. Mais là, c'est Edith qui le fait. Donc, voilà. On va vous passer la deuxième pause musicale. On se retrouve juste après. We'll be right back.
can dépasser les kindés. Mokili banga daba, lelo ya yolo bianga, lelo na yelo bioko ya pesanga lo popo.
Ils sont calcinés nos rêves chez moi. Je crois en la vie, je rêve encore. Je vais pas faire tous ces kilomètres pour m'arrêter contre ce gagnage.
Si je pars, c'est pour la dignité. Sauver les miens de pauvreté qui n'ont pas mérité. On me refuse tous les ports et tous les aéroports. On parle de paix, on m'a donné la mort.
Même si je suis loin de chez moi, j'ai des droits. Comme toi, j'ai des droits. C'est le même sang qui coule en toi et moi, en toi et en moi.
Va, n'oublie surtout pas que le destin de ta famille repose sur toi. Je sais que tu nous feras sortir des entrailles de la misère. Le cœur meurtri, je te laisse partir, mais en toi j'ai foi. Ma seule prière, c'est que tu ne finisses pas comme ton père.
Même si je suis loin de chez moi, j'ai des droits. Tout comme toi, j'ai des droits. C'est le même sang qui coule en toi et moi, en toi et en moi.
Pourquoi perdre la vie pour les râles ici? Les richesses que tu vises, ils les prennent ici. Trop de haine entre nous, trop de jalousie. Vendre ton frère en Libye, c'est quoi ton alibi?
Mamba onatana, konakanga mbemba onatana.
Cet esclavage, c'est de la politique. La migration est un sens unique, loin de tout, loin de tous tes droits.
Jamais n'oublie ton pays, tu as aussi un toit.
Même si je suis loin de chez moi, j'ai des droits. Tout comme toi, j'ai des droits. C'est le même sang qui coule en toi et moi, en toi.
Sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la suite et la fin, puisque c'est la dernière partie de notre émission sur la promotion et la défense des droits humains. Et on va vous parler d'un pays dont on n'a pas évoqué non plus lors de nos dernières émissions. On vous rappelle que les podcasts, de nombreux podcasts, sont disponibles sur le site de la radio, principeactif.net, à la rubrique Amnesty International. Donc n'hésitez pas à les réécouter ou à les écouter si vous les avez manqués. Et donc, un pays dont qu'on n'a pas évoqué beaucoup lors de nos dernières émissions, et c'est la Russie. Et c'est Edith qui va vous en parler.
Voilà, donc la Russie...
Attends. Petite, on va dire presque.
Désolé, Edith, j'avais oublié de remonter la tranche de ton micro. Reprends ta
phrase. Vous ne m'aviez pas entendu. Donc, je disais que la Russie, c'est un pays qui ne fait pas tout de suite l'actualité, mais qui continue, on va dire, son détricotage des droits humains. Et la dernière nouvelle que j'ai lue, c'est que Mémorial, c'est une grosse ONG qu'on connaît depuis très longtemps.
Oui, tout à fait.
Et donc, là, sur l'article, ça fait 40 ans que Mémorial a été une ONG des droits humains en Russie, une ONG qui recueille les informations sur la répression passée et présente en Russie, qui a permis que les violations commises à l'encontre des milliers de personnes ne tombent pas dans l'oubli, notamment le cas pour les victimes des goulags staliniens, des actes illégaux, les violations des droits humains commis lors des conflits en Tchétchénie, en Géorgie, en Ukraine, mais aussi la détention arbitraire de centaines de détracteurs et d'opposants politiques du Kremlin actuel. Donc c'est une organisation de premier plan. Mémorial défend courageusement les droits humains et est la cible de terribles représailles, notamment la persécution, la détention et l'homicide de membres de son personnel. C'est ce qu'a déclaré Denis Krivotchek, directeur adjoint pour l'Europe et de l'Est et l'Asie d'Amnesty. Eh bien, Mémorial, lauréate du prix Nobel, désignée dernièrement comme extrémiste et interdite par les autorités russes qui ont désigné extrémiste de façon arbitraire cette organisation de défense.
Oui, je t'interromps, mais forcément, quand on défend les droits humains et le bien vivre ensemble et la paix, etc., on est forcément extrémiste, ça tombe sous
le... Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà, en 2021, la Russie avait bloqué quand même cette organisation. Mais cette organisation, elle a fait des bébés. Il y a d'autres organisations qui sont... qui dépendent de la même. Et là, franchement, c'est le coup de grâce, quoi. Une audience qui s'est tenue le 9 avril 2026, la Cour suprême de Russie a fait droit à la requête du ministère de la Justice visant à désigner comme extrémiste le mouvement public international Mémorial, une expression fourre-tout employée par le gouvernement pour élargir l'interdiction à toutes les organisations liées à Mémorial et à interdire ses activités dans le pays. Et donc, quand je vous ai expliqué tout ce que faisait Mémorial, bon, ce qui est quand même sûrement très gênant pour le gouvernement de M. Poutine, c'est cette masse d'informations, cette mémoire de tous les crimes, de toutes ces violations des droits humains qui se sont passées en Russie. Puisque pour Poutine, Staline, c'est pratiquement un copain. Enfin bon, il y a une réécriture.
C'est un nostalgique du Staline.
Voilà, il y a une réécriture de l'histoire qui fait que, bientôt, il n'y aura plus de goulag. Enfin, il n'y aura plus de choses comme ça. Donc, c'est ça sûrement aussi qui faisait vraiment de l'ombre, même si nous, on demande que les autorités russes reviennent sur cette décision scandaleuse et veillent à ce que Mémorial et les organisations de défense puissent exercer leur liberté, leurs activités librement. C'est vraiment une campagne depuis des années contre Mémorial, parce que ce que j'avais appris, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a le Mémorial international, le Centre Mémorial, il y a même une association mémoriale basée en Suisse, une fondation allemande. Tout ça, ça a permis de garder ses mémoires. Et donc, j'espère que même si le fait que les personnes citent même les associations étrangères en Russie, maintenant, comme ça a été décidé comme terroriste et carrément inadmissible, s'ils citent dans un mail, dans une conversation, eux-mêmes peuvent être arrêtés et avoir la justice qui va leur tomber sur le dos. C'est ça aussi le système russe qui va se passer. Donc j'espère que dans les organisations à l'étranger, il va pouvoir garder quand même, on va dire, une base de données. Hein, pour que ça puisse être regardé et utilisé à un moment ou à un autre pour la véritable histoire russe.
Oui. Il y a d'ailleurs un bureau de Mémorial en France. Effectivement, ils ont un site internet. Ça m'arrive de temps en temps d'aller jeter un coup d'œil dessus.
Voilà, donc
je crois que le nom du site, c'est memorial.org, si je ne me trompe
pas. Il y a plein, voilà, c'est ça, Mémorial. La fondation allemande, c'est Zukum Mémorial. La Suisse, c'est Association Mémorial International. Voilà, donc il y a sûrement beaucoup de déclinaisons. Et heureusement, mais bon, ça va devenir de plus en plus compliqué. Alors, dans le même esprit, la Russie aussi a décidé qu'il y allait y avoir une aggravation de la répression contre les droits des LGBT. Là aussi, c'est une condamnation de choses qui va... Attendez, je reprends ma feuille. Voilà, la loi sur les extrémistes utilisée pour cibler. Donc, extrémiste, c'est vraiment un mot à beaucoup de tiroirs, mais qui plaît beaucoup en Russie.
C'est un mot valise, comme on dit.
Carrément, carrément.
Ça permet
carrément.
De mettre beaucoup de choses.
Donc, la justice a pris des mesures en vue d'interdire en tant qu'extrémiste deux organisations majeures de défense des droits des personnes LGBTI en Russie, le réseau LGBT russe et l'association Vicon, basée à Saint-Pétersbourg. C'est toujours de l'instrumentalisation des lois vagues sur extrémistes pour criminaliser la défense des droits humains et aussi mettre hors la société des personnes qui fréquentent ces associations. Alors, juste pour vous donner un exemple malheureusement réel, donc une jeune femme, Tatiana Zorina, propriétaire d'une discothèque, a été condamnée à 4 ans d'emprisonnement dans une colonie pénitentiaire pour avoir soi-disant organisé l'activité extrémiste d'un mouvement international LGBT inexistant dans son établissement. Et la condamnation illustre de façon saisissante l'aggravation de l'utilisation de la législation relative aux prétendus extrémistes par les autorités russes, qui devient de la persécution pure et simple contre les personnes LGBT et leurs alliés. Tenir un établissement privé conçu comme un espace où les personnes LGBT peuvent être elles-mêmes n'est pas un crime. Nier ce droit est lamentable, déclare Marie Struder, directrice du programme Europe pour Amnesty. Et on demande à ce que, déjà, le jugement soit annulé, qu'on libère Tatiana et qu'on abroge ces lois complètement arbitraires et complètement ségrégationnistes par rapport à la population LGBT.
Oui. Il faut rappeler que, par exemple, dans tout l'arsenal débile, entre guillemets, utilisé par les autorités russes et le Parlement russe, etc., pour établir ces lois, il a été dit que les minorités sexuelles étaient effectivement facteurs de pédophilie. Voilà, ce qui est absolument insupportable.
Et juste pour donner une idée, fin d'année 2025, au moins 23 procédures pénales ont été engagées pour extrémistes contre des activités LGBTI. Voilà, en Russie.
Ok, on va revenir en France. On n'a pas parlé beaucoup de la France. On a parlé tout à l'heure de ce projet de loi condamné par Amnesty, qui va passer au Parlement après-demain. Mais dans la chronique, toujours, il y a une petite rubrique qu'on utilise de temps en temps dans nos émissions qui s'appelle « Nos droits à l'épreuve des nouvelles technologies ».
Souvent, c'est moi, j'aime
oui,
bien.
Souvent,
c'est... c'est ton anniversaire, je te pense. C'est cadeau.
Souvent, c'est Edith qui vous en parle. Et moi, dans la dernière chronique, il y en a une que j'ai relevée. Donc, ça se passe chez nous. Et ça dit la chose suivante. 2,1 millions de données piratées. Le 1er janvier... un hacker a revendiqué le vol de 2,1 millions de lignes de données personnelles stockées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, OFI. C'est son nom, l'OFI, O-F-2-I. Les victimes avaient en commun d'avoir signé le contrat d'intégration républicaine, ce fameux contrat d'intégration républicaine qui a été voté il y a 2 ou 3 ans maintenant, et qu'Amnesty France a largement... critiqués, donc ont été volés les identités, les coordonnées, les situations familiales et administratives d'étrangers vivant en France, risquent de se retrouver ces coordonnées en vente sur le dark web, c'est-à-dire la face cachée et chiffrée d'Internet. L'OFI a confirmé le vol et porté plainte, mais le préjudice est d'ores et déjà avéré. Les personnes concernées sont exposées à des risques accrus d'hameçonnage ciblé, d'extorsion ou d'usurpation d'identité. Alors moi, ce qui me pose question, ça c'est ce que dit cette petite article, mais ce qui me pose question, effectivement, c'est que ça a ciblé des gens qui ont signé le contrat d'intégration républicaine, qui était proposé comme étant un engagement pour les associations et les particuliers pour respecter les voies de la République, qui atterrissent effectivement sur ce site internet de l'OFI et qui sont piqués. C'est-à-dire l'État français est aussi nul que ça pour protéger les données personnelles des étrangers vivant en France et qui ont fait preuve de bonne volonté en signant cet engagement républicain. C'est quand même, comme dirait ma grand-mère, fort de café, cette histoire.
Donc, voilà. Voilà, et puis c'est quand même très dangereux, parce que c'est aussi toute une population qui est pour certains fragilisée. Et donc là, se retrouver avec des données qui vont être revendues, vont vraiment... C'est compliqué pour eux, parce que qui va les défendre? Là, effectivement, ils ont porté plainte. Oui. Ils ont dit, bah non, c'est désolé, mais tout ça, c'est parti. Mais à partir de là, à quel moment eux vont pouvoir aussi avoir de l'aide? Ça, c'est pas dit dans ton article.
Non, c'est pas dit dans l'article. Et il y en a un autre, si tu me laisses encore 3 petites minutes. Ça se passe là au Myanmar, c'est-à-dire en Birmanie. Et ça, c'est un côté positif d'Internet. Par contre, il faut aussi en parler. Ça s'appelle haut-parleur de survie. Un jour de novembre 2025, le téléphone de l'activiste birman Bi Kyal vibre. Via l'application Telegram, des contacts l'informent que des avions de chasse de la junte viennent de décoller de la base militaire proche de Sagen. Dans la minute, Bi Kyal lance l'alerte par Tokiwoki, question de vie ou de mort. Son cri est aussitôt diffusé grâce à un réseau de haut-parleurs dans un village voisin. Ce système rudimentaire est efficace dans le pays où la junte, au pouvoir depuis 2021, multiplie les coupures d'Internet. Les opposants utilisent aussi Starlink, une connexion satellite directe difficile à bloquer au niveau national, bien que la junte y parvienne parfois par des brouillages. Donc voilà, c'est un réseau effectivement de messagerie instantanée qui a permis à cet opposant à la junte birmane, on rappelle qu'en Birmanie, effectivement, c'est une junte militaire qui bombarde son propre peuple, de se mettre à l'abri. Donc c'est une utilisation intelligente aussi des réseaux sociaux.
Voilà. En sachant que, bon, après, on peut revenir aussi aux pigeons voyageurs, hein, enfin, pour revenir à tout. Oui, mais voilà, c'est très bien d'utiliser, faire un mix entre... le débrouille et puis aussi ce que peut nous donner les réseaux sociaux. As-tu autre chose, Didier, peut-être du local?
On va
là.
Toucher le terme de l'émission. Ben, au niveau local, on va vous reparler dans la prochaine émission dès qu'on aura arrêté une date pour cette...
film.
Cette nouvelle date pour notre projection débat qui a été annulée faute d'électricité le jeudi 9, mais qu'on va reprogrammer effectivement après les vacances de Pâques. Donc on attend la confirmation avec le cinéma. On va vous en reparler, je pense, à la prochaine émission, celle du 26 avril. Donc on se retrouve en direct sur l'antenne de Principe Actif.
Voilà, et puis on va leur dire, à tous nos auditeurs d'aller sur le site d'Amnesty. Oui. Il y a plein de pétitions à signer.
N'hésitez pas, ça prend pas beaucoup de temps de signer des pétitions, mais c'est très utile.
Et puis alors, Amnesty, ils sont très très clairs. Si on a déjà signé, ils vous disent, vous avez déjà signé. Mais regardez, vous en avez une autre à côté. Donc c'est pas compliqué du tout.
Voilà, on a aussi, comme on vous disait, un tas d'émissions à écouter ou à réécouter sur le site de la radio, principactif.net, dans la rubrique Amnesty International. N'hésitez pas. Et puis, je voulais vous redonner aussi notre adresse mail si vous avez envie de nous contacter au niveau du groupe d'Evreux. N'hésitez pas non plus. Notre adresse mail, c'est evreux@amnestyfrance, tout attaché, Amnesty avec un Y, amnestyfrance, tout attaché, .fr.
Evreux@amnestyfrance.fr. Comme cadeau d'anniversaire, bon, ça ne va pas être bien pour Didier parce qu'il l'a déjà, mais vous pouvez offrir des abonnements à La Chronique, le magazine des droits humains.
C'est ça, vous avez le formulaire d'abonnement sur la page.
C'est un bimensuel maintenant, 6 € pour 2 mois. Et c'est très, très intéressant.
Ben, vous avez un tas d'informations qu'encore une fois, vous n'avez pas sur les grands médias mainstream, comme on dit. Et donc, pour le formulaire d'abonnement, vous le trouvez sur le site d'Amnesty France, amnesty.fr. Voilà.
Eh bien, on va pouvoir...
On va rendre l'antenne, effectivement.
Saluer nos auditeurs. Bonne soirée, printemps à chacun.
On se retrouve donc le mardi 26 avril en direct à 19h sur l'antenne de Principe Actif, effectivement.
Bonsoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.